Bac FM, il est 10h30 tout pile, on est parti pour votre rendez-vous ciné sur Bac FM. Action, c'est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Et très bonne matinée à vous sur Bac FM, on est mercredi, tout va bien. On va parler cinéma tous ensemble avec un très très beau sommaire encore, avec une avant-première très attendue hein, au ciné Mazarin. Ça arrive dimanche, il y a les sorties bien sûr de cette semaine avec deux biopics. Il y a quatre biopics en tout qui sortent cette semaine, il y en a deux au ciné Mazarin, dont un sur la présidence américaine d'ailleurs, on va revenir dessus. Et puis bien sûr je suis accompagné de Laetitia, salut Laetitia.
Salut Théo.
Ça va?
Bah écoute, oui ça va, j'ai survécu au Covid. Donc je suis de retour aujourd'hui.
Ouais, je suis très heureux de te retrouver enfin, parce que je te cache pas que l'émission de la semaine dernière était un petit peu maussade hein, sans
mais
toi.
Écoute, si elle était très bien, je l'ai écoutée du coup pour une fois, je l'ai écoutée en tant que
auditrice, ouais.
Voilà c'est ça.
En tant qu'auditrice en train de tousser dans ton canapé, mais je suis content que tu sois revenu
d'ailleurs. Et moi donc,
il y a une programmation qui te plaît là au casting.
Oui, il y a plein de choses sympas, et puis un petit film du grenier aussi.
On va rappeler le principe du film du grenier, tu montes dans ton grenier, tu vas chercher un film, tu dis tiens celui-là, ah ouais, on va parler de celui-là, et paf, hop là.
Et hop là, et aujourd'hui, on va fêter un petit anniversaire.
Ouais, c'est vrai, un anniversaire avec un film et des chocolats. On n'en dit pas plus. Je le disais, donc un très beau programme hein, aujourd'hui, une avant-première dimanche, les sorties ciné au Mazarin, et puis les infos tout de suite à venir, on va retrouver d'ailleurs Manuel.
Respect, robustesse, Caius, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Et puis dans les infos également, un nouveau biopic. Après les succès de ceux consacrés à Freddie Mercury, à Elton John et à Amy Winehouse, eh bien c'est une autre icône de la pop britannique qui va avoir droit à son biopic. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être, Letty?
Eh bien écoute, là non, justement, j'étais en train d'y réfléchir pendant que tu en parlais. Non, là, va falloir que tu me donnes un indice.
Eh bien, c'est la carrière de Robbie Williams.
Ah, yes!
Star des années 90, qui va en effet être au centre du film Better Man de Paramount Pictures, qui vient même de dévoiler la bande-annonce du film. Écoutez.
I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. But I've always seen myself a little less evolved. Now scream! Whoa!
Gotta risk it all, whatever it takes.
Whatever it takes.
Voilà, court extrait hein, de la bande-annonce qui est sortie seulement en version originale pour l'instant, pas en VF. Le film, il est réalisé par Michael Grasset qui a déjà fait The Greatest Showman. Je sais pas si t'as vu le film.
Je l'ai pas vu celui-ci.
Le film qui doit sortir le 17 janvier aux États-Unis. Il adopte un point de vue assez étonnant. Plutôt que de faire interpréter Robbie Williams par un acteur qui lui ressemble vaguement, par exemple, comme ça se fait souvent dans les biopics, eh bien là, il le représente dans la peau d'un chimpanzé.
D'accord.
Voilà. Un parti pris qui est justifié par une petite phrase qui est prononcée par Robbie Williams dans la bande-annonce au tout début. Le chanteur explique s'être toujours perçu comme un être moins évolué qu'un humain. Alors bien sûr, c'est une image de synthèse, hein, le chimpanzé, mais j'avoue que la bande-annonce, elle donne plutôt envie. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, Letty dans Action, puis on se repassera un petit titre, bien sûr, de Robbie Williams à l'occasion.
Bien sûr, on en a plein ici dans la discothèque de Bac FM.
On va passer à ton info à toi, Letty.
Moi, je vais vous faire deux petites recos-plateformes qui sont toutes les deux issues d'adaptations de romans. Alors la première, c'est Appartement 7A, c'est sorti sur Paramount le 27 septembre et il s'agit du préquel du livre et du film Rosemary's Baby. Alors c'est un livre qui a été au départ édité en 67, il a été écrit par l'américain Ira Levin et il a été adapté au cinéma l'année suivante hein, par Roman Polanski avec Mia Farrow et John Cassavetes dans les rôles principaux. Et Rosemary's Baby, en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui s'installe dans un imposant immeuble new-yorkais et ils vont rapidement faire connaissance avec leurs voisins, c'est un couple de personnes âgées qui va devenir de plus en plus envahissant, notamment lorsque la jeune femme va tomber enceinte et va être aussi victime d'événements de plus en plus étranges. Alors c'est un film aussi culte que réussi, Rosemary's Baby, ouais. Et se risquer à en faire un préquel, c'était quand même un pari plus que risqué. Un pari qu'a relevé la réalisatrice Nathalie Erika James, et forcée de constater qu'elle s'en sort plutôt bien. Avec l'actrice Julia Garner de la série Ozark, je sais pas si
ouais,
tu
si,
vois
si.
Qui c'est.
Ouais, sur Netflix, super ouais. Série très sombre.
Et
ben
c'est elle qui joue le rôle principal. Appartement 7A nous ramène en 65, donc quelques temps avant les événements de Rosemary's Babies, et nous raconte comment Terry Ginofrio va elle aussi être la victime du même appartement et des mêmes voisins âgés. Méfiez-vous de vos voisins âgés. Alors, sans égaler, bien sûr, le film de Polanski, Appartement 7A, c'est un film qui est plutôt bien foutu, qui est assez bien rythmé et qui se laisse tout à fait bien regarder. Pour un film de plateforme, je trouve qu'on est quand même ouais. Dans le haut du panier.
Okay.
Et puis, la deuxième reco, eh bien, c'est Salem's Lot. Je l'avais évoqué hein, il y a
oui,
une quinzaine de jours.
Oui, commencé d'en parler. Ouais,
voilà, c'est la nouvelle adaptation du roman Salem de Stephen King. Alors, celui-ci, il a débarqué le 3 octobre, donc la semaine dernière, sur Max. Et malgré des critiques plus que mitigé, il est quand même à voir selon moi. Alors Salem, c'est une histoire de vampire, hein. C'est un Dracula version Amérique des années 70. Il avait déjà connu deux adaptations pour la télé, on l'avait dit, hein, une de Toby Hooper en 79, une autre en 2006, et cette version là, la nouvelle, elle était prévue au départ pour le cinéma, mais elle a été maintes et maintes fois repoussée, et elle a fini par atterrir donc sur une plateforme. C'est une adaptation qui est signée par Gary Doberman.
D'accord, et, ok, ouais, tout à fait.
Alors lui, il est connu pour avoir bossé sur les Annabelle, sur la Nonne, sur ça. Et heureusement que son adaptation de Salem, elle n'est pas passée par la case grand écran, parce que malgré ses 1h50 de durée, le film, il enchaîne en fait les événements, il enchaîne les actions, et il donne souvent l'impression de pas creuser l'histoire.
Ouais,
de,
c'est un peu trop speed en
voilà,
fait.
Voilà, de pas
ouais.
creuser les personnages, alors qu'il y aurait beaucoup à dire. C'est dommage, parce qu'il y avait très très bonnes idées, et elles auraient pu être beaucoup mieux exploitées. Et pourtant, j'avoue que j'ai passé un excellent moment devant Salem's Lot, qui rend plusieurs hommages à la version de 79, et cette version 2024, moi j'ai particulièrement apprécié son atmosphère, qui m'a vraiment rappelé celle que j'avais beaucoup aimée dans le bouquin.
Ouais.
Donc au final, cette nouvelle adaptation, elle est bourrée de défauts, mais je la valide.
Ça fait partie de tes petites recommandations, les tirs.
Voilà, avant Halloween.
Ouais, voilà, c'est ça, on peut dire que c'est des petites recos avant Halloween quand même. Là, ça
bah oui, parce que là,
pas,
ça approche à grand pas, c'est le moment ou jamais de se faire du film d'horreur à tout va.
Mais d'ailleurs, un film d'horreur, on va en évoquer un dans quelques instants, Letty, avec les sorties ciné. Et quatre nouveaux films à l'affiche de votre cinéma Zarin cette semaine, un film d'animation, un film d'horreur, un biopic et un autre biopic. Pour commencer, le film évoque la vie d'une photographe américaine casse-cou qui s'impose parmi les reporters de guerre qui ont accompagné l'US Army en 44 de la Normandie à l'Allemagne. Lee Miller sera la première à photographier l'horreur des camps de concentration. Avant ça, elle aura été mannequin pour Vogue et modèle pour peintre. Kate Winslet joue le rôle de cette femme symbole de la femme libérée dans Lee Miller bande-annonce.
Vous, vous devez être Lee Miller.
Les deux cours suffira.
Nous n'envoyons pas les femmes sur le front.
C'est un problème, parce que je suis ici.
Bienvenue chez Vogue.
Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi.
Oui, c'est exact.
J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets. Que vous ne confierez jamais.
Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre.
Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes.
Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire ? Je pars pour le front. On se met en route ?
Je ne m'attendais pas à entendre ça.
800 kilomètres dans l'horreur absolue.
Je ne resterai pas devant cette fenêtre, mais ils ont des tireurs isolés.
Ils sont disparus. Ils ont tous disparu.
Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Elles sont mes photos.
Tu les as pas publiées. Je me suis battue pour elle.
Cet enfant, dans un camp de la mort. Comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées.
Casting international pour Lee Miller, Marion Cotillard et Noémie Merlant, qui est également Emmanuel en ce moment au cinéma. Oui. Josh O'Connor et donc Kate Winslet pour retracer la vie de cette femme aux mille vies. C'est dispo au ciné Mazarin. Et puis j'évoquais un film d'horreur également à l'affiche, c'est Motherland, Letty.
Oui, effectivement, Motherland. Alors de quoi ça parle, Motherland ? Eh bien, depuis la fin du monde, June, qui est jouée par Halle Berry, ouais, protège ses deux fils en les confinant dans leur maison totalement isolée. Et pour survivre, eh bien, ils chassent dans la forêt voisine, mais attention, ils doivent jamais s'aventurer à l'extérieur sans être constamment reliés à leur maison par une corde que la mère de famille demande à ses enfants de ne lâcher sous aucun prétexte. Mais un jour, bah voilà, hein, la corde est rompue et ils n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans une lutte terrifiante pour leur propre survie. Alors qu'est-ce qui rôde en fait autour d'eux dans ce monde post-apocalyptique ? Y a-t-il effectivement quelque chose de surnaturel ou June serait-elle en proie à des phénomènes psychiatriques ? Eh bien, tel est le propos de ce nouveau film du réalisateur français Alexandre Aja, qui est le fils du cinéaste Alexandre Arcadie. Ouais, et Alexandre Aja, en fait, il s'est fait un nom aux États-Unis depuis déjà presque deux décennies. Il s'était fait remarquer déjà plutôt en France avec le film Haute Tension,
ah, mais oui,
qui était avec Cécile de France et Mai Wen, qui est génial. Et ensuite, grâce à ce film-là, il s'était vu ouvrir les portes d'Hollywood, déjà pour la réalisation du remake du film La Colline à des Yeux. La Colline à des Yeux, c'était en 2006. Et il avait ensuite enchaîné sur Mirrors avec Kiefer Sutherland et puis sur Piranha 3D, des films qui lui ont permis de s'inscrire comme un des réalisateurs de cinéma d'horreur les plus respectés. D'ailleurs, son très réussi Crawl, sorti en 2019, n'avait fait que confirmer ce statut extrêmement rare pour un réalisateur français. En tout cas, pour ce qui est de son nouveau film, donc Motherland, eh bien, pour l'instant, les retours sont très positifs.
Et film qui étonnamment est à la programmation du cinéma Zarin, alors tant mieux, alors qu'il y a quand même Terrifier 3 qui,
oui,
fait beaucoup parler
en
ce moment.
À cause de son interdiction moins de 18.
Mais ouais, c'est ça, il y a 11 personnes qui ont quitté la salle lors de l'avant-première. C'est une première d'ailleurs en France depuis 20 ans. Ça, Letty, pour toi, c'est aussi un petit peu du marketing, hein, c'est ce que tu
me disais. Oui, alors c'est vrai qu'en France, ça n'était pas arrivé depuis 2006 avec un des épisodes de Saw. Pour dire que c'est quand même très très rare que ça arrive, mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les 4 matins, on entend « oui, les spectateurs se sont évanouis devant tel film », c'était le cas pour Long Legs cet été, avec le public américain. Alors là, c'est le public britannique, alors peut-être est-il moins sensible que le public américain et plus crédible.
Alors que nous, les Français, on est des durs, nous.
Nous, on est des durs. Après, Terrifier, c'est une série de films qui est vraiment très très hardcore. On est au-delà du simple slasher, on est vraiment dans plus que le gore, on est dans le sadisme, hein, à certains moments.
Mais justement, Manuel voulait évoquer ce buzz sur Terrifier, justement.
C'est tout à fait exact, Théo, puisque le troisième volet des aventures sanglantes d'Art, le clown tueur, arrive en salle aujourd'hui. Un nouvel opus, toujours à éviter, hein, pour les âmes sensibles, et cette fois, tu l'as dit, Théo, carrément interdit au moins de 18 ans. Et ça, c'est assez impressionnant puisque le tout premier volet de Terrifier, qui était sorti en 2017, n'avait pas connu de diffusion en salle en France. Sa première suite, Terrifier 2, avait eu accès au circuit des cinémas de l'Hexagone, précédé d'une réputation sulfureuse puisque des spectateurs américains avaient été tellement choqués par certaines scènes qu'ils en avaient, paraît-il, vomi, tripes et boyaux. Une suite qui avait plutôt bien marché, hein, pour un film, on va dire, de niche, hein, qui a rapporté 10 millions de dollars aux États-Unis et qui avait attiré en France à peu près 70 000 spectateurs. Donc interdit aux moins de 18 ans, décision rarissime, en général réservée aux fictions à fort contenu sexuel et qui n'avait plus été appliquée à un long métrage d'horreur depuis Saw 3, c'était en 2008, même le très extrême, on va dire, le très très sanglant The Sadness, bien plus réaliste que Terrifier 3, qui avait été diffusé à l'été 2022, n'avait écopé que d'une interdiction au moins de 16 ans avec avertissement. Donc Terrifier 3, et c'est ce que les distributeurs du film précisent, c'est un film d'auteur qui s'inscrit dans la plus pure tradition du genre dit slasher, et je pense que Letty nous éclaire parfaitement en la matière. Donc voilà, et bien la suite, c'est à découvrir en salle pour Terrifier 3, film d'horreur américain, donc je le rappelle, interdit au moins de 18 ans de manière tout à fait exceptionnelle. On en reparlera dans Action pour vous dire si le film a bien marché au box-office.
Et en attendant de voir peut-être Terrifier venir terrifier justement le ciné mazarin, eh bien Mother Land, c'est dispo, lui, à l'affiche de votre ciné. Et puis c'est la semaine des biopics. Il y en a un qui fait l'actu, d'ailleurs plus que les autres. Sebastian Stan enlève son costume de soldat de l'hiver pour celui de Donald Trump dans The Apprentice. The Apprentice d'Ali Abbasi, eh bien décrit comment Donald Trump est passé du jeune homme maladroit et ambitieux qu'il était dans les années 1970 à un homme d'affaires arrogant et sans scrupules avec l'aide de son mentor et avocat Roy Cohn.
Oui ?
Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup.
Donald qui ?
Roy Cohn, enchanté.
Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié.
Je plaide coupable.
Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois.
Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant.
Comment on gagne ?
La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer.
Ce sera le meilleur hôtel du pays.
Et du monde.
Et du monde. Ce sera spectaculaire.
Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier.
Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement ?
Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile.
Mais c'est illégal.
Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner.
Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers.
Tu as des dettes jusqu'au cou.
Je sais ce que je fais.
Tu peux regarder dans un miroir, tu deviens moche.
N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait.
On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique.
Rendre, j'adore ce mot.
Le clan Trump menace de poursuivre le film en justice pour diffamation, notamment à cause d'une scène de viol, mais Ali Abbasi n'est pas inquiet. Il estime, il l'a dit hein, dans les lignes du Parisien, que ces menaces ne sont que de l'esbroufe. Le réalisateur pense que Trump pourrait aimer son film et qu'il serait surpris de le voir. Il aimerait même le rencontrer pour en discuter avec lui, figure-toi Letty.
Et peut-être même ce film influencera-t-il les prochaines élections américaines ? On peut se poser la question.
Bah ouais, justement, le timing est assez drôle. Alors le film, il revient sur l'enfance compliquée de l'ancien président, ce qui amène à côté un petit peu aussi un petit peu de pitié en fait pour Donald Trump qui est candidat donc aux élections de novembre. Tu l'as dit, le timing est assez fou, le film est drôle, parfois burlesque aussi, et puis surtout il y a un jeu d'acteur qui est assez fou. Puis on va terminer là-dessus. Pour info, pour devenir Donald Trump, Sebastian Stan a bu 3 canettes de soda par jour. Rien que pour ça, pour moi, il mérite un prix.
Et oui, alors j'ai vu passer l'info, mais j'ai pas compris pourquoi il devait boire les 3 canettes de soda.
Bah pour prendre du poids.
Pour prendre du poids, tu vois, j'ai vu passer que le titre et j'ai pas eu le temps de lire.
Et ouais, pour prendre du poids, mais d'accord. Alors c'est vrai que je vous invite à aller voir les images. Vraiment, il y a une ressemblance qui est assez forte.
Ouais, c'est flagrant.
Pourtant, quand on voit l'acteur comme ça, on se dit pas, lui, il va jouer Donald Trump.
Ah non,
C'est là toute la force, c'est vrai, ça rejoint aussi un petit peu... je sais pas, on pourrait penser à Tara Reim, par exemple, qui va jouer Charles Aznavour, en vrai, enfin... Pour nous, c'est impensable comme ça. C'est là qu'on voit tout le travail qu'il y a derrière des visagistes, en fait.
On peut penser aussi à l'époque, à la prestation de Marion Cotillard hein, dans La Môme, qui était
absolument
incroyable.
Mais bien sûr, tout à fait. Donc voilà, The Apprentice. Eh bien, écoutez, je vous invite à aller voir par curiosité la bande-annonce et puis à vous rendre au Mazarin. C'est la surprise de cette semaine et c'est à découvrir au ciné Mazarin. La dernière sortie de cette semaine, elle était en avant-première dimanche. Film d'animation pour toute la famille, on en a parlé semaine dernière. Le robot sauvage qui suit l'incroyable épopée d'un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement assez hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle va finir par adopter le petit du noix, un oison qui se retrouve orphelin. C'est la programmation jeunesse animation familiale de cette semaine et ça tombe plutôt bien vu le week-end pluvieux qui arrive. Je vous invite à vous réfugier à l'abri dans les salles au fauteuil rouge. Un week-end avec une avant-première d'ailleurs qui arrive, on en parle juste après Prince qui fait partie de la BO de ce film. L'amour ouf de Gilles Lelouch, bougez pas, vous êtes sur Bac FM, on revient.
I go out and
Prince, Nothing Compares dans la BO de l'avant-première qu'on va évoquer dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans Action sur Bac FM, votre rendez-vous ciné. Je m'appelle Théo, je suis avec Letty. T'es toujours là, Letty ?
Je suis toujours là.
Eh ben ça tombe bien, parce qu'on va parler du film événement de cette fin d'année. Film très attendu en France. Gilles Lelouch livre une belle déclaration d'amour avec son nouveau film L'Amour Ouf. 6 ans après le succès populaire du Grand Bain, eh bien Gilles Lelouch réunit à l'écran 2 chouchous du public, François Civil et Adèle Exarchopoulos. Le film se déroule dans les années 1980 dans le nord de la France et il raconte l'histoire d'amour entre Jackie et Clotaire. Ils ont des origines sociales qui sont opposées. Elle est issue d'une famille bourgeoise alors qu'il vient d'une famille ouvrière. Une histoire d'amour qui est vouée à l'échec, surtout que le garçon devient un criminel. Il va passer 12 ans en prison, mais après sa sortie de prison, eh bien Clotaire est déterminé à reconquérir son amour d'enfance.
Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gâché. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait.
Tu bosses pour moi.
Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que tu crois.
Je veux te voir, Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse.
Ce que pensais à toi, c'était m'inquiéter pour toi.
Et c'est qui ce type ?
T'as gâché toute ta vie comme ça.
C'est pas ma vie, ça !
L'Amour Ouf va de la romance au thriller en passant par la comédie musicale. Candidat à la Palme d'Or au Festival de Cannes, le film est un des plus gros budgets du cinéma français en 2024 et il va, c'est évident, amener du monde en salle. L'avant-première, c'est dimanche à 16h pour une sortie. Mercredi, c'est les infos à retenir sur votre ciné Mazarin. À retenir quand même sur votre ciné Mazarin avant de retrouver le film du Green Letty et puis d'avoir aussi le gagnant pour la place de cinéma, bien sûr. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner une place de ciné toutes les semaines en partenariat avec le ciné Mazarin. Il y a Croquette aussi, le chat merveilleux. C'est un film d'animation d'1h27 en avant-première. Ce sera samedi à 14h. Et puis c'est un film qui sera précédé d'une tombola. Voilà, j'ai pas de détails encore sur la tombola, mais j'imagine que ce sera versé pour une association, sûrement pour les animaux.
Les animaux, ouais.
Voilà. Et puis L'Amour Ouf, je l'ai pas précisé. C'est un film qui est suivi d'une diffusion de la rencontre avec l'équipe du film aussi. Voilà, donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler car je serai présent dimanche au cinéma.
Si vous
Laetitia.
Souhaitez rencontrer Théo, ce sera le moment.
Pour peut-être retrouver L'Amour Ouf.
Et ben peut-être.
Je vous le disais, on fait gagner toutes les semaines une place de cinéma. C'est en partenariat avec le Ciné Mazarin. Vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux de Bac FM, Facebook, Instagram. Vous nous envoyez un petit vocal, vous nous dites quel film vous aimeriez aller voir au cinéma. Et c'est une gagnante. Aujourd'hui, elle s'appelle Maëlle.
Bonjour, je suis étudiante au lycée Jean Rostand et je participe au concours pour les places de cinéma. J'aimerais regarder le week-end à Taipei.
Mon vrai nom, c'est John Lola. Je suis un agent infiltré pour avoir des infos sur comment ces trafics.
Où aurait lieu le transfert ?
Taipei.
Non.
D'accord.
C'est qui le mouchard ?
Ça, c'est une excellente question.
Pourquoi tu t'es marié à ce mec ? Parfois, il vaut mieux oublier le passé.
Comment tu m'as retrouvé ?
Maman, qui c'est ?
Maman, quoi ? T'as un fils ?
John Wong a envoyé ses hommes à l'hôtel pour tous vous tuer. Je crois que t'es malin.
Qu'est-ce que vous faites ? On a oublié les clés.
Vous êtes vraiment mes parents ? T'étais mort, mec.
Son maman va s'en charger dans une minute.
Vous allez la fermer et me laisser courir.
Ah ! Maëlle qui repart donc avec sa place de cinéma pour aller voir Weekend à Taipei. Elle repart donc avec la place de cinéma offerte grâce à Bac FM et le ciné Mazarin. Rendez-vous mercredi prochain maintenant pour gagner une nouvelle place au ciné Mazarin. Félicitations à toi Maëlle.
Bravo Maëlle.
On va terminer cette émission, Letty, avec ton film du grenier. On a rendez-vous pour un anniversaire.
Exactement, aujourd'hui on va fêter l'anniversaire d'un des personnages les plus appréciés et les plus populaires de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui on fête les 30 ans de Forrest Gump, puisque le film réalisé par Robert Zemeckis est sorti en salle en 1994. En France c'était le 5 octobre. Et depuis, ben, les péripéties de cet homme simple au cœur pur qui symbolise à lui seul un demi-siècle d'histoire américaine continue de fasciner les spectateurs de génération en génération. Forrest Gump, qui contribuera d'ailleurs également à consacrer définitivement Tom Hanks parmi les acteurs les plus talentueux d'Hollywood. Bien plus qu'un film culte, Forrest Gump fait désormais partie intégrante de la pop culture. Alors avant de revenir sur cette œuvre majeure du 7e art, eh bien, bande annonce.
Je m'appelle Forrest, Forrest Gump.
Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon petit Forrest aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Maman, qu'est-ce que ça veut dire en vacances ?
En vacances ?
Où est allé papa ?
En vacances, c'est quand on va quelque part et qu'on ne revient jamais.
Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. C'était ma meilleure amie. Ma seule amie.
Alors Forrest Gump, ça parle de quoi ? Eh bien du destin hors du commun, justement, de Forrest Gump, un homme considéré comme simple d'esprit, originaire d'Alabama, qui va se retrouver impliqué, le plus souvent involontairement, dans les principaux événements qui vont marquer l'histoire des États-Unis entre les années 50 et le début des années 80, des événements dont il est même parfois, sans le vouloir, l'instigateur. Et cette histoire, eh bien, il nous la raconte depuis le banc d'un arrêt de bus, et elle débute lorsqu'il était un enfant malingre, élevé par sa mère, depuis que son père était parti en vacances depuis bien longtemps. À cette époque, dans l'Alabama des années 50, Forrest, qui avait le dos complètement tordu, ce qui l'obligeait à porter un appareillage aux jambes et dont le QI était considéré comme bien en dessous de la normale, eh bien, il se posait comme le souffre-douleur idéal pour ses camarades. Seule la petite Jenny va devenir son amie, sa meilleure amie même, et c'est grâce à elle qu'il se découvrira un don exceptionnel. Effectivement, en lui criant son fameux « cours Forrest », Jenny va permettre au jeune garçon de découvrir à quel point il court vite, une aptitude qui sera presque le point de départ de son incroyable destinée, puisque eh bien, ce don va lui permettre d'intégrer l'université, puis l'armée, de combattre au Vietnam, de se découvrir un autre don finalement pour le ping-pong, dont il va devenir un grand champion, avant de revenir à la vie civile, qui elle aussi va lui réserver bien des surprises. Par exemple, il fera fortune dans le commerce de crevettes. Et durant la traversée de ces 4 décennies, eh bien, Forrest Gump rencontrera aussi une multitude de personnages historiques. Alors il y aura d'abord Elvis, à qui il va inspirer sa célèbre danse, puis il y aura Kennedy, Nixon, il y aura John Lennon, et finalement, bah, les seuls rendez-vous manqués, eh bien, ce seront ceux avec Jenny, l'amour de sa vie, qui connaît elle un destin beaucoup moins enviable. Ils ne cesseront pourtant jamais de se perdre et de se retrouver jusqu'à des retrouvailles définitives pour le meilleur et pour le pire.
Et Forrest Gump, c'est un film qui est adapté d'un livre de base.
Effectivement, Forrest Gump, c'est l'adaptation du roman du même nom de l'écrivain Winston Groom. Ça a été publié en 1986, mais sa version cinématographique comprend quand même quelques différences notables par rapport au bouquin. Alors par exemple, en plus d'avoir éludé certains passages du roman, le film, il ajoute plusieurs aspects de la vie de Gump, comme par exemple les tiges en fer, tu sais, qu'il a sur les jambes au début, là, quand il est enfant, où il y a aussi cette fameuse course à pied à travers les États-Unis quand il est adulte, qui a marqué tout le monde. Une autre différence notable, c'est que dans le livre, eh bien, Forrest, il apparaît comme un homme cynique. Alors que c'est pas du tout le cas dans le film. Hein. Dans le film, c'est un homme gentil, naïf. À aucun moment, à aucun moment, il fait preuve de cynisme et qui, de surcroît, dans le bouquin, il est très doué en mathématiques. Et ça non plus, ça n'apparaît pas du tout dans le film. Enfin, et ça, c'est une différence majeure. Ni la mère de Forrest ni Jenny ne meurent dans le livre, alors que dans le film, eh ben, ces deux événements brisent le cœur de Forrest Gump. Alors, la liste des différences entre le roman et le film, elle est encore très très longue. Ça prendrait trop de temps d'en faire le tour. Mais par exemple, pour en citer une ou deux. Dans le bouquin, Forrest Gump, il devient astronaute, mais la navette s'écrase. Et puis, il y a aussi un autre épisode où il va se faire enlever par des cannibales.
Et le film a reçu énormément, énormément de récompenses.
Ouais, alors en plus de son immense succès à la fois critique et au box-office, Forrest Gump a en effet remporté un nombre incalculable de récompenses. Et c'est aux Oscars 95 qui va en rafler le plus, avec pas moins de 6 statuettes. Hein. C'est quand même énorme pour un seul film. Il va y avoir celle du meilleur film, celle du meilleur réalisateur pour Zemeckis, celle du meilleur scénario adapté, celle bien évidemment du meilleur acteur pour Tom Hanks, et puis celle du meilleur montage et des meilleurs effets visuels.
Et Forrest Gump, c'est aussi une bande-son mythique.
Ouais, alors, il y a deux bandes-son, en fait, dans Forrest Gump. Il y en a une première qui est toute classique, hein, qui a été composée par Alan Silvestri, qui est le compositeur attitré de Robert Zemeckis. Hein. C'est lui qui avait fait la musique de Retour vers le futur, par exemple. Ouais. Mais c'est pas cette bande-son-là qui est devenue culte. C'en est une autre, qui réunit tous les classiques du répertoire pop-rock américain qu'on entend tout au long du film et qui ponctue les aventures de Forrest Gump. Celle-ci, personne ne l'a oubliée. Hein. À l'époque, cette bande originale, elle est sortie sous la forme d'un double disque qui est composé pas moins de 33 chansons avec des artistes comme Elvis, Aretha Franklin, Creedence Clearwater Revival, les Doors, les Beach Boys. Et le disque, il a connu un énorme succès dans les charts du monde entier. Il est presque aussi mythique que le film.
Et en parlant de succès, dans Forrest Gump, on va assister aussi au début d'un enfant star.
Tout à fait, dans Forrest Gump, on assiste au grand début au cinéma de Haley Joel Osment, qui joue Forrest Junior, le fils que Jenny va avoir avec Forrest Gump. Alors à cette époque-là, le jeune acteur, il est âgé de 5-6 ans, et on tardera pas à le revoir au cinéma, puisqu'il jouera ensuite dans la comédie Bogus, avec Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu. Et puis surtout, en 1999, il va crever l'écran en devenant le garçon qui voit des gens qui sont morts dans le film Sixième Sens de M. Night Shyamalan.
Film que tu as évoqué d'ailleurs il n'y a pas très longtemps.
Exactement.
On reste sur Forrest Gump, indissociable bien sûr d'une fameuse paire de baskets.
Exactement, et ces fameuses baskets, eh bien, c'est une paire de Nike Cortez, un modèle mythique de la marque à la virgule dont la première paire est sortie en 1972. Alors celle que porte Forrest Gump dans sa folle course à pied à travers l'Amérique, qui lui ont d'ailleurs été offertes par Jenny. Elles sont blanches avec le swoosh rouge et une petite touche de bleu à la semelle. Et si les Nike Cortez étaient déjà un modèle emblématique de Nike en séduisant aussi bien les sportifs que le grand public, et leur apparition dans le film Forrest Gump va définitivement offrir un statut de basket mythique. D'ailleurs, cette année, à l'occasion des 30 ans du film, Nike a sorti une édition Forrest Gump de ces Cortez qui reprend donc le design de 72 et qui, bien entendu, est de la même couleur que celle de Forrest. Alors, si jamais vous souhaitez en acquérir une paire, elles sont toujours à la vente, hein. Toutes n'ont pas été écoulées, il vous en coûtera environ 110 euros, alors elles sont pas données, mais en même temps une paire de baskets c'est jamais très donné,
c'est un souvenir.
Moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai possédé moi-même une paire de Cortez de la même couleur que celle de Forrest Gump et ça a été une des paires de baskets les plus confortables et les plus résistantes que j'ai jamais portées.
Et moi j'avais voulu acheter fut un temps la casquette dans Forrest Gump.
Avec la casquette Booba
Booba
Gump.
Je voulais l'acheter. Il y avait une suite qui était envisagée à Forrest Gump.
Ouais, une qui s'est concrétisée du côté des librairies, puisque devant le succès du film et donc du regain d'intérêt pour le bouquin, son auteur Winston Groom va en écrire une suite éditée en 95 qui s'intitule Gump & Co. Et puis côté cinéma, Eric Ross, le scénariste du premier film, il va lui aussi écrire un scénario pour faire une suite au cinéma, mais qui sera pas du tout lié cette fois-ci à la suite du roman. Et dans cette suite prévue pour le cinéma, Forrest Gump, il aurait dû faire face à la maladie de son fils atteint du sida.
D'accord.
Et puis il aurait aussi dû être le témoin de l'affaire O.J. Simpson et il aurait dansé avec la princesse Diana. Alors le scénario, il sera bel et bien finalisé, mais il sera finalisé le 10 septembre 2001, donc la veille des attentats du 11 septembre. Okay. Et ces événements vont mettre un point final au projet, puisque après ça, Robert Zemeckis, Tom Hanks et Eric Ross vont considérer que cette suite a plus de raison d'être.
Ouais, bien sûr.
Alors juste pour finir sur une petite anecdote, des fois la réalité finit par côtoyer la fiction, puisque je sais pas si forcément tu te souviens dans le film, à un moment donné Forrest il annonce au lieutenant Dan, qui est joué par Gary Sinise, qu'il va devenir capitaine de crevettier,
oui, oui,
en mémoire de son ami Booba. Et là le lieutenant Dan il lui répond, ouais ben si un jour t'es vraiment capitaine de crevettier, je crois que moi je serai astronaute. Ouais. Et bien il faut savoir que l'année suivante les deux acteurs ont tourné ensemble dans Apollo 13 de Ron Howard.
Ah d'accord, ah ils jouent aussi dans Apollo, ok d'accord.
Voilà.
Ah ouais, effectivement, bah ouais, effectivement, c'est un joli clin d'œil à cette séquence dans le film. Lieutenant Dan. où est-ce qu'on peut retrouver ce film, Letty ?
Alors, le film est disponible pour l'instant sur Netflix, mais dépêchez-vous parce qu'il va quitter la plateforme le 21 octobre. Ouais, par contre, je pense qu'après, il ira sur une autre.
Hein. Ouais, bien sûr.
Mais sur Netflix jusqu'au 21 octobre.
Alors, on vous conseille vite d'aller voir ce film pour les 30 ans donc de Forrest Gump, interprété par le magnifique Tom Hanks. Merci Letty,
merci
à
Théo.
Toi. À midi, vous avez rendez-vous avec Culture en Vrac, Gaëtan et Hugo pour La Maison et le Café Charbon. Et puis nous, on se donne rendez-vous à 13h. On va continuer de parler cinéma avec mes invités. A tout à l'heure, à 13h.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.